Je ne sais pas du tout, vous ennuyez longtemps maintenant, parce que vous avez ajouté beaucoup à le très bon exposé de Laurent. Mais je vais prendre deux, quoi, simplement. Un peu, d'une part, les relations qu'on peut imaginer entre Godin et Fourier, et d'autre part, les impressions qu'on peut avoir quand on va à Guise, comme disent les gens de Guise. Alors d'abord, je reprendrai la citation qu'a reproduit Laurence. Nul n'a élevé à un plus haut degré le respect absolu de la liberté de l'homme et de toutes ses tendances natives. Et ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans Fourier. Et c'est un bouleversement total et d'idée de liberté et l'idée de tendance native. Parce que la liberté, ce n'est plus le retranchement du sensible, c'est au contraire le déploiement et l'épanouissement du sensible. Du sensible et de l'affectif. Une transformation totale par rapport à la philosophie traditionnelle, à tout un courant de la culture. Donc, tout à fait. Voilà que ce maître génial ouvrier et maître d'industrie également génial comprend ça, tout à fait. Ce que personne alors ne comprenait. Et ce que personne aujourd'hui peut-être ne comprend encore. C'est-à-dire que c'est à l'ordre d'échéance. Donc, ce Godin aperçoit tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire au fond, toutes ces tendances natives? La liberté liée à toutes ces tendances natives. Elles sont natives, elles sont naturelles. Et en tant que tendance, elles sont mouvement hors de soi, à l'évers. Et par conséquent, elles dépendent de ce qu'elles reçoivent de l'extérieur. Et par conséquent, elles sont historiques. Et donc, elles dépendent également des circonstances qui se trouvent. Et M. Godin se trouve devant l'épreuve de la réalité. Non seulement de la réalité virtuelle, potentielle, que traque Fourier, avec son expérience expérimentale et scientifique, comme a dit monsieur, c'est très juste, mais sa science est au fond tout le temps bousculée, et on en dirait autant d'un psychologue le plus grand de la période moderne, Freud, et tout le temps ces théories qu'il essaie d'ajuster pour faire quelque chose qui soit une thérapie réelle, s'effondre devant justement l'expérience. Et pour Fourier, c'est la même chose dans Le Monde amoureux, quand il arrive justement au fond de sa recherche des tendances natives. Et des manies, comme vous dites, on dirait, on dit maintenant des perversions, on disait manies ambiguës, transition, exception, rare et par précieuse, parce qu'elle justement, elle délivre un autre aspect des choses et un autre aspect du soi. Et comme ce soi et le monde vont ensemble, on peut imaginer que ce qu'on appelle perversion sera au contraire une espèce de création nouvelle n'est pas simplement des maladies, autrement dit. Ça peut être au contraire des inventions précieuses. Bon, je pourrais continuer uniquement sur ce développement, vous voyez, entre cette invention illimitée des tendances natives, parce que la mesure qu'elles rencontrent un autre support, elles le transforment et en même temps elles sont appelées par ce support. C'est-à-dire que le peintre, par exemple, quand il est Cézanne, lui, il pense que la nature est intérieure, mais en même temps il travaille sur le motif tout le temps, parce que ce qu'il veut trouver, c'est ce qu'il y a dans la Sainte Victoire. Et donc c'est cette rencontre-là qui fait quelque chose d'illimité, de continu et d'indéfini, et par conséquent forcément fictif. Parce qu'on ne pourra jamais achever ce que la fiction essaie justement de montrer jusqu'au bout. Et ce que fait Fourier, c'est ce qu'il essaie justement de construire quelque chose qui irait jusqu'au bout. Et ça sent forcément inachevé, même dans la réalité. Alors, ça, c'est les épreuves entre Godin et ce qu'il a fait. Mais alors, quand je suis arrivé, moi, pour la première fois à Guise, j'avais entendu parler de Godin, c'est tout, et je connaissais les magnifiques feux Godin. Mais là, j'ai eu une impression magnifique, parce que tout à coup, sur le modèle un peu versant, bien sûr, c'est anachronique comme construction, mais c'était un palais pour les ouvriers. Alors ça, c'est une chose absolument nouvelle et que personne n'avait inventé dans Godin, et naturellement Fourier. Mais bon, ils le reprenaient absolument. Et sa première femme, ils ont tous été une petite bourgeoise de la bourgade de cet endroit, a été scandalisée, elle était avec les ouvriers. Ça, elle avait raison, elle avait tout à fait raison, ça transformait l'idée de pouvoir. Il y avait tout à coup une communication entre le maître, qui restait le maître bien sûr, et qui dirigeait son affaire, ça ne fait pas de doute, et c'était lui l'inventeur et de la matière d'ailleurs, et puis d'autre part il avait affaire en effet à une bourgade paysanne, il avait des gens qui n'avaient pas compris, comme a dit Laurence, ce qu'on voulait leur donner, donc il avait pu éduquer, mais vraiment, à partir de rien. Et par conséquent, il ne pouvait pas en effet faire l'expérience de toutes les tendances natives que vous pourriez
Rommel, lui, dans l'aristocratie, dans la bourgeoisie, c'est là où il a pris ses modèles, c'est pas du tout parmi les pauvres. Les pauvres, ils les voulaient riches, ils voulaient leur donner tout ce que les riches avaient, mais ses modèles, c'était l'aristocratie du 18e, c'était les salons, des dames, justement, parce qu'il appréciait les femmes, ça, on l'a dit aussi, mais voilà, vous voyez tout ce que je voulais vous dire. Alors, les impressions, c'est non seulement ça, c'est un site magnifique, une très belle place de banque, il a construit d'abord une arête, une halle, il avait 300 ouvriers, il en avait 500, il en avait 1500, il construisait un musée. Eh bien, ça, c'est un modèle de maître industriel qu'on n'a pas, parce qu'il n'y aurait pas de SDF si on construisait à mesure qu'on en peut les ouvriers. Et ça, c'était extraordinaire. Et on les logeait à côté du maître, en effet, dans des appartements comparables, grands lits plus ou moins selon la taille des gens. Et des appartements, dont j'avais voulu les visiter, bien sûr, harmonieux. On se disait, on peut vivre là, c'est agréable. On a une vue d'une part sur la bourgade et d'autre part sur la cour intérieure. Alors, ça, c'est une merveille, la cour intérieure du Verrières. Il y avait la salle de fête, de réunion, de bal, etc. Et qui était une construction intéressante aussi parce que la première verrière est construite et établie avec des bois. Ce qu'on ne peut plus imaginer maintenant, qu'on soutient une verrière avec des bois, ben, pire encore. Et les autres plus tard ont été construites avec des fers, naturellement, comme on fait maintenant. Alors, il a construit d'abord une aile, ensuite le grand bâtiment avec la tourelle minée, puis une autre aile. Et ça aurait pu continuer indéfiniment jusqu'à faire une pile, malheureusement. Et alors, les ouvriers, en effet, ont tenu ça pour demain, parce que quand il est mort, il leur a légué. Et ça a tenu jusqu'en 1968, c'est quand même extraordinaire. Et c'est le marché tellement longtemps qui a remis ces pauvres gens qui avaient très bien tenu leur affaire, avec de magnifiques poêles dont on voit encore des exemples partout. Moi, j'ai des amis qui ont une cuisinière Godin qui fait un feu continu au bois, qui est magnifique. Et d'autre part, alors, même les escaliers, où on prend pour aller, parce qu'il y avait trois étages, ce palais, et dans la cour intérieure, qui était chauffée, ventilée l'été, et chauffée l'hiver, toujours par un système inventif d'air, tu le sais, et on arrosait aussi l'été, les gens d'en haut. Et puis et ceux qui habitent en haut avaient des fenêtres plus petites parce qu'ils avaient plus de lumière, mais tout le monde avait partage de lumière, partage de luxe, France. Hein, parce que c'est le luxe d'un appartement agréable, harmonieux, etc. Et une vue sur l'Oise de l'autre côté, parce que ce palais est construit de telle sorte qu'il a une rivière de l'autre côté, des paysages, des arbres, etc. Et une piscine, alors ça, je ne sais pas si Laurence t'a vu, mais une piscine pour les ouvriers, parce qu'il fallait qu'ils puissent se détendre quand ils sortaient de leur travail, qui n'était pas très grand, qui était le travail ordinaire d'une industrie. Et ils avaient cette piscine, et cette piscine, elle avait cette particularité que je l'avais vue dans une autre, c'est que le sol se pouvait se lever pour que les enfants, quand ils apprenaient à nager, ne se noient pas. Alors le sol de la piscine se levait, oui. Bon, enfin, une laverie pour que les femmes ne lavent pas chez elles, c'était pas ça du tout d'avoir eu. Et puis ça perdait du travail, on faisait ensemble, c'était beaucoup plus gai. Et voilà. Toute cette impression m'a laissé. Alors en plus, on voit encore maintenant des enfants ou des petits-enfants plutôt de ces ouvriers. Et ils donnent l'impression qu'il y avait une sorte de confiance. Ils étaient nés petit à petit entre eux et qu'il y avait donc un vivre ensemble avec une solidarité réelle. Ah, Laurence vous a dit, il y avait une sécurité sociale, il y avait des retraites assurées, il y avait voilà, une tranquillité certaine. Donc c'était une très belle réalisation fouriériste. Et qui prouve en effet une expérience possible, si elle avait pu durer, s'il n'y avait pas toutes sortes d'autres conditions.